7-9.
Et nous sommes le mardi 31 août. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les tirs victorieux des talibans cette nuit dans le ciel de Kaboul. L'armée américaine s'est totalement retirée d'Afghanistan avant même la fin de la date butoir. Nous sommes en direct de Washington dès le début du journal. Après les autres titres, Agnès.
Le nombre de morts du Covid a augmenté de 11% la semaine dernière dans la zone Europe, selon l'OMS. En Seine-Saint-Denis, on déploie des centres de vaccination au plus proche de la population, pendant que l'Éducation nationale cherche à recruter des assistants d'éducation pour gérer la vaccination des élèves. Jean Castex en Alsace, aujourd'hui rentrée discrète dans l'ombre du président de la République en allée électorale. Et puis nous serons à la Nouvelle-Orléans, qui se relève du passage de l'ouragan Ida.
Les invités de France Inter ce matin, à 7h50,
oui, Nicolas,
Léa.
On l'avait reçue il y a 2 ans, elle s'était prise pour Jésus à l'époque dans son précédent livre. Elle se met aujourd'hui à la place de son père, décédé récemment. Son père, ce héros, Amélie Nothomb est notre invitée à 7h50.
A tout à l'heure Léa, on se retrouvera à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec donc aujourd'hui le président du Sénat, sénateur Les Républicains des Yvelines, j'ai nommé Gérard Larcher. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Avec 24 heures d'avance sur la date butoir, le dernier avion américain de transport militaire C-17 a quitté l'aéroport de Kaboul. Derniers hommes à monter à bord et c'est tout un symbole, un général et l'ambassadeur américain. L'image de fin des 20 ans d'occupation américaine en Afghanistan, accompagnée de coups de feu de victoire tirés par les talibans, désormais seuls maîtres de Kaboul. Bonjour Loïc Loury.
Bonjour Anaïs.
Notre correspondant à New York. Alors les Américains ont fait le choix de ne pas prolonger leur présence.
Non, et Joe Biden d'ailleurs, malgré le chaos de ces dernières semaines ou les pressions de ses partenaires, n'a jamais bougé d'un iota sur ce point. Le 31 août resterait, quoi qu'il arrive, la date butoir du départ des Américains. Alors c'est finalement 24 heures avant cette limite, à minuit moins une heure de Kaboul, que le dernier C-17 américain a décollé. La fin de 20 ans de guerre, la plus longue guerre de l'Amérique, et une guerre sans fin, comme elle était considérée par une partie toujours plus importante de la classe politique et de l'opinion américaine. C'est cela que Joe Biden devrait faire valoir dans son discours très attendu cet après-midi. Il était grand temps de quitter ce pays, répète le président américain depuis plusieurs semaines.
Le Pentagone, Loïc, reconnaît ne pas avoir réussi à faire sortir d'Afghanistan autant de personnes que voulu.
Non, effectivement, même s'il est très difficile de connaître le nombre de civils afghans en particulier restés sur le carreau, peut-être des milliers, mais peut-être bien plus, il serait ainsi 250 000 au moins toujours sur place, éligibles au départ, à avoir collaboré avec les Américains d'après le New York Times. Les talibans se sont bien engagés à laisser partir ceux qui le souhaiteraient à l'avenir. Ils devront tenir leurs promesses, leur a dit Anthony Blinken tout à l'heure, le secrétaire d'État américain qui a mis en garde les nouveaux maîtres de Kaboul.
Chaque prise de contact avec le pouvoir des talibans ne sera motivée que par une seule chose, l'intérêt vital des États-Unis. Chaque étape que nous suivrons ne sera pas fondée sur ce que le gouvernement taliban dit, mais sur ce qu'il fait pour respecter ses engagements.
Et les Républicains accusent Joe Biden d'avoir abandonné des Américains à la merci des terroristes. Qui sont ces personnes qui restent ?
Alors Anaïs, le Pentagone, à vrai dire, ne donne que très peu de détails à ce sujet. On parle de 100, peut-être 200 ressortissants américains toujours en Afghanistan. Ont-ils choisi de rester ? Sont-ils piégés hors de Kaboul ? On ne le sait pas. Aucun civil américain, en tout cas, n'est monté à bord des 5 derniers avions qui ont décollé de Kaboul lors des 12 heures qui ont précédé le départ du dernier C-17. Quoi qu'il en soit, l'armée américaine l'assure, repousser la date butoir de ce retrait n'y aurait rien changé. Washington, dit Anthony Blinken, continuera à aider tous les Américains qui veulent quitter l'Afghanistan, mais cela devra désormais se faire en collaboration avec les talibans.
Les talibans, merci Loïc. En conférence de presse en ce moment à Kaboul, nous voulons de bonnes relations avec les États-Unis et le monde, vient de redire leur porte-parole. Cette nuit, le Conseil de sécurité de l'ONU leur a demandé de permettre à ceux qu'ils veulent de quitter le pays en toute sécurité, mais pas de zone protégée, comme le demandait le président français. Et cette question encore ouverte ce matin, qui pour gérer l'aéroport international ? La Turquie est en pleine négociation avec les talibans. Nous serons à Kaboul dans le journal de 8h.
En France, il est 7h05, on n'atteindra pas les 50 millions de primo-vaccinés contre le Covid à la date du 31 août.
On n'en est pourtant pas très loin, plus de 48 millions de premières injections, c'est près de 72% de la population et pourtant la vaccination marque le pas. 130 à 150 000 doses injectées chaque jour, comme en mars dernier quand il manquait des flacons. L'Organisation mondiale de la santé s'en inquiète, elle brandit cette projection qu'elle qualifie de fièvre. fiable. Au 1er décembre, la pandémie aura causé la mort de 236 000 personnes dans la région Europe qui va jusqu'en Asie centrale. De cause, le variant Delta et les disparités régionales et sociales de la vaccination. Alors en France, on cherche à convaincre les indécis. À Dugny, en Seine-Saint-Denis, seul un quart de la population adulte était primo-vaccinée début juillet. Depuis, Marion Ferrer, la mairie a lancé une campagne de vaccination avec la Croix-Rouge.
On a fait presque 80 personnes en 2 heures.
Constance Roux travaille à la Croix-Rouge. Elle vient à Dugny pour la 3e fois cet été et a pu voir les mentalités évoluer.
Au début, on n'avait vraiment pas beaucoup de monde. Et petit à petit, avec le bouche à oreille, les personnes ils ont dit ça s'est bien passé. Il y a pas mal de personnes qui me disent « Ah, vous vous souvenez de moi ? J'ai fait 2 injections avec vous. » Et du coup, là, j'ai ramené ma fille.
Avec la Croix-Rouge, aucune prise de rendez-vous, pas besoin non plus de papier d'identité. Les bénévoles prennent aussi le temps de rassurer les candidats au vaccin, ce qui a fini par convaincre Ramda, 35 ans.
Ils sont venus, ils ont pris le temps, ils m'ont dit que j'avais une tension qui était bien. Ils m'ont rassuré, ils m'ont dit qu'il fallait que je me calme. Parce qu'avec tout ce qu'on entend, on a peur de se faire vacciner. Mais bon, puis maintenant, il y a avec le Delta et tout ce qui se passe.
Michel, 64 ans, lui, s'est décidé grâce à la proximité du centre installé dans le gymnase de la ville. Il se déplace avec une canne, impossible donc pour lui de prendre les transports en commun. Surtout que Dugny n'est desservi que par 2 lignes de bus.
Son fils, ma compagne, il a été au Stade de France, lui. Mais moi... Ce qui me fait peur, c'est d'être obligé de rester debout parce que j'ai du mal à rester debout. Puis j'ai dit, s'ils font l'effort d'ouvrir ici, je vais faire l'effort d'y aller.
Dugny compte désormais près de 50% de primo-vaccinés et la commune a prévu de faire revenir la Croix-Rouge pour une 4e session lors du forum des associations le week-end prochain.
Pour la rentrée scolaire après-demain, il faut là aussi des bras pour gérer les à-côtés de la vaccination avec l'installation des centres éphémères près des collèges et des lycées. L'éducation nationale veut recruter 700 postes à temps plein d'assistants d'éducation supplémentaires pour gérer les flux d'élèves et recueillir les autorisations. Ils sont habituellement chargés de la surveillance et de l'accompagnement des élèves. Or, Sonia Princé, les candidats manquent.
À 2 jours de la rentrée, il manque la moitié des personnels dans l'équipe de Marie, qui est conseillère principale d'éducation dans un collège de la banlieue parisienne. Chaque année, elle est chargée de recruter des assistants d'éducation, mais elle a eu beaucoup de désistements pendant l'été.
Ce qui est rare, c'est qu'autant de personnes partent pendant l'été. Ça arrive toujours une ou deux, mais pas autant. Et le problème, c'est que là, le peu de candidatures dont le collège dispose ne sont pas forcément appropriées, parce qu'on ne peut pas recruter n'importe qui non plus pour être au contact d'élèves. Moi, c'est ma 8e rentrée. J'ai jamais connu ça.
La crise sanitaire a amplifié les difficultés de recrutement dans de nombreux établissements.
Les AED sont en première ligne pour tout le temps. Et là, ça n'a pas manqué pendant le Covid. C'est quand même eux qui sont chargés au quotidien, en plus des professeurs, des CPE, etc., de faire respecter le port du masque, la distanciation sociale, les sens de circulation dans les établissements, les cours de récréation séparés. Ça épuise, en fait.
Tout cela pour un salaire au SMIC et des conditions de travail de plus en plus difficiles, comme le confirme Emmanuel Séché, secrétaire général adjoint du syndicat SNES.
Il y a eu beaucoup de mobilisation au cours de l'année scolaire passée, des AED qui demandent à être mieux payés, moins précaires, des AED forcément qui ont jeté l'éponge, donc la rentrée va être difficile.
Marie explique qu'elle va devoir être moins exigeante sur les critères de recrutement et les profils des candidats pour pouvoir assurer la rentrée.
Le difficile recrutement des assistants d'éducation en première ligne sur le Covid, c'est à lire sur franceinter.fr. Rentrée politique aussi, la dernière avant l'échéance présidentielle dans 8 mois. Et Emmanuel Macron qui occupe le terrain de Dublin à Bagdad avant de se poser 3 jours à Marseille à partir de demain. Dans son ombre, le Premier ministre gère la rentrée sociale. Il reçoit demain et après-demain les partenaires sociaux à Matignon alors qu'une journée de mobilisation intersyndicale pour les salaires et les emplois aura lieu le 5 octobre prochain. Ce matin, Jean Castex est en Alsace pour continuer à promouvoir la vaccination. Et plus la campagne va s'accélérer, plus il jouera les seconds rôles, Yael Gauz, ce qu'il assume.
Il bouge tous les jours, ou presque, un tour de France des sous-préfectures, savamment planifié par son cabinet. Bientôt, Jean Castex aura fait autant de déplacements qu'Édouard Philippe en 3 ans. Mais avec quelle visibilité ? Ça n'imprime pas, constate un haut responsable de la majorité. Crépuscule logique sous la 5e République, plutôt un travail utile dans l'ombre, corrige ses conseillers à Matignon. Une feuille de route sacrificielle, faire réussir la France pour aider le président à se projeter sur un nouveau quinquennat. quinquennat. Une rentrée loin des projecteurs. Le plan d'investissement, c'est Emmanuel Macron qui va l'incarner. Le Beauvau de la sécurité, Emmanuel Macron. Le revenu d'engagement pour les jeunes, Emmanuel Macron. Quant aux aides records qui vont pleuvoir sur Marseille, c'est encore et pour 3 jours une chasse gardée présidentielle. Peu d'espace pour Jean Castex, pas toujours convié d'ailleurs au dîner politique de l'Élysée. Il est exactement à sa place, au contraire, affirme l'un des pionniers d'En Marche. Bosseur, loyal et paratonnerre. Matignon attend avec impatience que la barre des 50 millions de vaccinés soit franchie. Un succès qu'il espère bien revendiquer samedi soir sur France 2 chez Laurent Ruquier.
Il est 7h10, 2 morts Anaïs et des dégâts catastrophiques en Louisiane.
Oui, ce sont les mots du gouverneur après le passage de l'ouragan Ida. Les compagnies d'assurance américaines ont déjà fait une première estimation, 15 à 20 millions de dollars de dommages. 1 million de foyers toujours sans électricité, des stations-service détruites, des routes submergées. Mais on est loin de la dévastation de Katrina il y a 16 ans. Le reportage à la Nouvelle-Orléans entre fatalisme et soulagement des habitants de Sébastien Paour.
Rodney est assis devant la porte de la maison où il est né il y a 63 ans, son téléphone portable déchargé à côté de lui. Pas d'électricité, pas de téléphone, les batteries à plat, pas de restaurant ouvert, pas de magasin, rien. Des ouragans, il en voit presque tous les ans depuis 1964. La saison de football commence en août, celle des ouragans aussi. Il regarde les grosses branches arrachées par le vent. Les arbres ont déjà plus de 400 ou 500 ans. Ils continueront de pousser. Les voisines, Dina et Rachel, remplissent des sacs poubelles. Des branches d'arbres, des feuilles, des débris. Parce qu'avec le retour de la pluie, si on ne nettoie pas, on sera inondé. Ça aurait vraiment pu être pire. Son amie ajoute qu'elle était là au moment de Katrina. Ida, c'était rien par rapport à Katrina. 4,50 m d'eau à certains endroits. Mais on a de nouvelles digues et elles ont tenu. Comme les célèbres maisons à balcon du carré français. Certaines ont plus de 200 ans. Imaginez combien d'ouragans elles ont connus. Elles sont toujours là. Et elles le seront sans doute encore quand je partirai. La Nouvelle-Orléans, Sébastien Paour, France Inter.
Et avec le réchauffement de la surface des océans, les tempêtes deviennent plus puissantes selon les experts. De l'autre côté des États-Unis, les eaux turquoises du lac Tahoe en Californie disparaissent sous les épaisses fumées jaunes des incendies. Des milliers de personnes sont en cours d'évacuation. Le feu de forêt a déjà parcouru 700 km² au sud du gigantesque Dixie Fire qui a englouti 3000 km² depuis son départ il y a 6 semaines. En tennis, l'élimination au premier tour de l'US Open d'Alizé Cornet, pas mieux pour Hugo Humbert et Benoît Paire. Sur 12 Français en lice hier, seuls 3 se sont qualifiés pour le second tour. À Tokyo, la 3e médaille en 3 épreuves pour Alexandre Léanté. Le cycliste français a pris le bronze dans le contre-la-montre sur la route. Et puis l'horloge tourne et toujours rien du côté du Real Madrid. Insoutenable suspense du dernier épisode du Mercato 2021, sauf coup de théâtre. Kylian Mbappé devrait donc rester parisien cette saison, mais il reste une poignée d'heures avant minuit, Nicolas.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, c'est le 2e épisode de notre série de Zoom consacrée aux attentats du 13 novembre. Le procès ouvre dans une semaine.